I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ok, pas cher.
Putain, ça y est, c'est parti. Non.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui cette semaine file tout droit direction la Canebière puisque nous allons nous arrêter quelques instants sur la série Marseille, première production française de Netflix, une série qui essuie un tir nourri de la critique et dont on va essayer de parler intelligemment sans tomber dans l'invective bas de gamme. Et pour ce faire, nous avons ici autour de la table autant que trois valeureux phocéens, enfin une Picarde, un Parisien et un Charentais, mais c'est à peu près pareil. Charline Roux, salut Charline.
Bonjour.
Daniel Andreev, salut Daniel, t'es russe, mais t'es
Je suis russe. Aussi, je suis russe.
Oui, tu es russe. Et Alexandre Hervaux, salut. Alex.
Bonjour Thomas.
Allez, c'est Nos Ciné, épisode 40. 49 sans accent s'il vous plaît, et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Je vous en supplie, ne faites pas l'accent. Bon, on pourrait estimer que tout a déjà été dit sur Marseille, tant la série écrite par Dan Franck, dirigée par Florian Emilio Siri et produite par Netflix, ça a eu les honneurs de la presse qui n'a pas mâché ses mots, traitant tour à tour la saga politico-familiale de désastres, d'accidents industriels, de catastrophes, vous choisissez votre qualificatif préféré, même la présence au casting d'un pilier chevronné du ciné français comme Gérard Depardieu n'a pas convaincu les critiques qui s'en sont données à cœur joie, visant notamment la prestation de Benoît Magimel, l'autre figure de proue du casting. Il est vrai parfois un peu desservi par des dialogues, disons, compliqués.
Vous trouvez pas ça bizarre? Qu'on se touche aux hommes en parlant de Picasso, hein?
Ça rigole déjà autour de la table, bravo, bravo. Alors pour autant, si je peux me permettre une petite insiste personnelle, c'est certes rigolo, mais c'est aussi un peu facile de limiter la série à ça, il y a plus à prendre qu'on ne veut bien le dire, et en plus de tout ça, on a beaucoup glosé sur le côté très cru, très cul de Marseille, mais très franchement, si on repasse tout ça à l'aune de l'actualité politique récente, on se dit que c'est peut-être pas si éloigné que ça de la réalité, voilà. Mais je passe la parole à nos trois amis autour de la table. Marseille, qu'est-ce que vous en avez pensé? Charline.
Je suis très embêtée en fait, c'est-à-dire qu'on assiste à un phénomène dont on a déjà parlé ici, c'est-à-dire qu'il y a un auteur qui écrit une série, la personne qui réalise une autre série, et les comédiens qui jouent dedans jouent encore dans une autre série en fait, et même des fois dans plusieurs séries différentes, c'est-à-dire que rien ne matche ensemble. Après tout dépend ce qu'on en attend, et c'est-à-dire que si on attend un thriller politique ou je sais pas, une carte postale de la ville de Marseille, c'est rien de tout ça, c'est un soap en fait.
House of Cards, c'est la française.
Non mais c'est un soap, faut mettre le nom dessus, c'est un soap, donc ça peut se regarder comme un soap, c'est-à-dire avec un peu de second degré, on rigole beaucoup. Après, tu disais revu à l'aune de l'actualité. Alors oui, peut-être, sauf que la seule différence qu'il y a avec ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a un vrai gros souci dans cette série, c'est les rôles de femmes.
De femmes, ouais.
Ça part pas trop mal, le rôle joué par Géraldine Pellas, qui joue la femme de Gérard Depardieu. Sur les premiers épisodes, on peut encore faire illusion, on se dit « Ah, il y en a une qui est à peu
qui
près normale. »
hein.
Qui est mais alors tout le reste, mon Dieu, c'est horrible, quoi. Et
c'est-à-dire, Nadia Fares.
Bah, c'est-à-dire, c'est un peu le Kama Sutra pour les nuls, quoi. Enfin, ou pour les bas du front. Il y a un truc qui est très gênant dans l'écriture de ces personnages féminins, qui, à mon avis, malheureusement, ne tient pas à l'auteur, qui s'en est quand même beaucoup défendu. Dan Franck a dit, moi, dans mon script, quand j'écris « Ils se rencontrent, ils font l'amour », je ne précise pas si c'est sur une chaise, dans un bureau, devant, derrière, dans un sauna, enfin, en parlant de Picasso ou pas, quoi. C'est un peu ça, le problème. Yeah. Depardieu est pas si mal. Pour un comédien de soap. Et après, sur le reste, on va pas s'attarder sur les prestations des autres. Il y a pas.
Depardieu, je le trouve hyper convaincant quand il fait le père largué. Parce qu'on sent qu'il est lui-même largué, en fait. C'est-à-dire qu'il est censé jouer un dialogue dans lequel son personnage ne pige pas ce que raconte son entourage. Et tu sens pertinemment que Depardieu lui-même ne pige pas les dialogues qu'il raconte. Donc, c'est assez drôle. Moi, le vrai problème avec cette série-là, c'est que c'est une série Netflix qui n'a pas été pensée pour Netflix. C'est une série qui a été pensée, je pense, pour la télévision des années 80-90, les grandes sagas de l'été. C'est assez drôle parce qu'on enregistre aujourd'hui cette émission alors que la série est diffusée ce soir, au moment de l'enregistrement, sur TF1, avec ce deal complètement improbable qui a été d'acheter les droits pour les diffuser les deux premiers épisodes, et a priori la suite, mais bien plus tard, donc ça fait un peu façon pilote. C'est une grosse opée de com' pour Netflix. Enfin, ça l'aurait été si la qualité avait été au rendez-vous. Est-ce que ça va se traduire par des abonnements? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont vouloir voir la suite, donc ils vont prendre le mois gratuit et s'enfiler le reste par pur masochisme pendant le week-end. Mais pour revenir à ce que je disais sur le série calibré, non pas pour Netflix, mais pour la télévision, c'est qu'à mon avis, Dan Frank, malgré tout le talent qu'il a pu avoir, moi j'ai vu la saison 1 des Hommes de l'Ombre, sa série sur France 2 avec Nathalie Baye, qui était quand même assez correcte, je pense qu'il n'a pas du tout conscience de la façon dont et les créateurs et le public se sont emparés du format Netflix, qui est permis par le binge-watching et l'enchaînement, etc. Et ils ont vraiment pris, mais ceci dit, c'est peut-être pas la faute de Dan Frank, ça peut être aussi fait au montage par Florent Milosieri, ils prennent vraiment les spectateurs pour des blaireaux. C'est-à-dire qu'il y a un rappel constant des enjeux via une voix off qui répète les dialogues qui ont parfois été prononcés 10 minutes avant dans le même épisode, et parfois dans la fin de l'épisode d'avant. Enfin, c'est vraiment quelque chose bas du front, sur la forme, vraiment, et pour, bon, on pourrait dire plein de mauvaises choses, enfin de critiques négatives sur la série. Moi, je pense que tout le monde est d'accord, il y a effectivement un énorme travail visuel qui a été fait sur la photographie, les cadrages, il y a un vrai parti pris. Bon, c'est un peu risible de voir dans le générique une création visuelle de Florian Milosieri, showrunner.
Ça, je pense que c'est pas
le premier showrunner de
l'histoire. Non, c'est pas
de son. Oui, mais c'est au service de rien, quoi.
C'est des choses qu'on leur a imposées, ça.
Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je comprends que Siri ait vraiment trouvé des idées visuelles, des parties pris, filmées de dos parfois, etc. Enfin bref, il a pas mal de choses qu'il maintient tout au long des 8 épisodes. Par contre, ce montage son avec ces espèces de rappels incessants, ces jingles, ces gimmicks, les virgules sonores sont d'une lourdeur insupportable, et encore une fois, ça fait saga de l'été, saga de l'été de feuilleton des années 80.
Il y a un grand problème, Daniel, dans cette série qui est vraiment bicéphale à mon avis. C'est il y a un auteur et il y a un réalisateur, ils se sont pas entendus, ils se sont détestés, l'un rejette la faute sur l'autre fait comme si de rien n'était, et nous, en tant que spectateurs, on peut juste croire en la bonne foi de chacun, et on choisit son parti comme on choisit quand on choisit l'UMP ou le PS, quoi. Et y a vraiment une guerre des tranchées visible, ça se sent dans les dialogues qui sont souvent, pour moi, c'est vraiment le plus grand échec, parce qu'on a pu railler soit la réalisation, soit le montage, soit tout ça, mais c'est vraiment les dialogues qui coulent la série, et tu sens que et j'ai aucune affection pour Magimel, mais elle est encore descendue d'un cran.
Tu es allé sur la banquise ?
Ah non, mais tu vois, là, pourtant j'étais habitué à les Rivières pour deux, la French et tout ça. Mais il faut dire un truc, c'est qu'il son accent marseillais imité il est assez consternant,
mais il est justifié dans la série.
Il est semi-justifié,
c'est mal expliqué, mais dans l'histoire de Marina Lindman qui apparemment forçait son accent en fonction des gens à qui elle parlait pour augmenter son crédit. Ouais.
Mais dans Clo-Clo, il imitait déjà très mal l'accent pied-noir, donc je pense qu'il n'est pas à une mauvaise imitation près. Et c'est ce qu'il en restera, c'est vraiment ces dialogues. Ils sont génialement savoureux, et surtout. J'ai fait l'expérience, j'ai regardé le truc en sous-titré français pour malentendants, et on voit la différence entre le script originel et ce qui est dans la série, et tu vois que les petits loulous de banlieue là, ils jouent tellement mieux que ce qu'il y a dans le script, parce qu'ils se disent ah bah non, on dit pas file-moi ta voiture, ils disent non, vas-y, balance ta caisse, parce qu'ils le jouent de manière naturelle, et tu sens que Depardieu et les loulous de banlieue, ils arrivent à pousser le matériau vers le haut, mais les autres, ils sont paumés. La pauvre fille de Depardieu,
elle est pas si mal, moi,
elle
je
est
trouve,
pas
hein,
si mal
même,
mais son rôle est risible, parce que parce qu'il y a une tentative de House of Cards Midswire qui est grotesque, parce qu'elle finit par coucher avec les deux loulous de banlieue rivaux. Enfin, c'est ce qu'il en restera, c'est ces dialogues, et ça, rien que pour ça, les gens me disent mais comment t'as fait pour t'infliger ça, parce qu'il nous en reste quelque chose, parce qu'on en rigole tous ensemble, et c'est ça qu'a créé Netflix. C'est un moment où on s'est tous mis à regarder ce truc. On se demande tous pourquoi, et pour la plupart on est allé au bout de l'expérience.
Oui, c'est ça, on n'est pas des masos non plus. Ouais. C'est-à-dire que t'as quand même envie de savoir jusqu'où ça va, donc c'est quand même hyper addictif. Ouais, c'est, c'est vraiment, c'est en ça que je dis que c'est construit comme un soap, quoi. Moi, ça m'a fait penser à Empire.
Ouais,
vraiment, quoi. Cette espèce de truc un peu grotesque, un peu boursouflé, et en même temps.
Après le premier épisode, j'ai commencé à prendre des notes au fur et à mesure des dialogues, et c'était plus c'est nul, mieux c'est.
Ouais. Et c'est la première fois, je pense quand même, qu'on. C'est pas la première. Comme tu disais, il y a souvent cette espèce de communion dès qu'une série Netflix sort. En général, c'est le vendredi. Beaucoup de gens se l'enfilent pendant le week-end. Et donc, on voit des réactions sur les réseaux sociaux, etc. Il y a une sorte de vraiment de truc simultané qui se passe, et en plus mondial. Mais d'habitude, c'est quand même plutôt, on va dire, positif. Alors, il y a des gens qui abandonnent en cours de route une série si ça leur plaît pas. Mais là, c'est la première fois que je voyais un côté nanardesque assumé. C'est-à-dire, c'était vraiment, on s'inflige ça comme on irait à une nuit excentrique de Nanarland, quoi. C'est vraiment une fascination du pire. C'est du binge-watching, mais c'est du hate-watching.
Et plus les dialogues étaient nuls, et mieux c'était. Moi, ma réplique préférée c'est il est en train de faire du coaching pour se préparer au débat. Et tout d'un coup, Majimel pète les plombs. Donc, il pète les plombs façon Majimel. Donc, c'est très, très mal joué. Et il dit à la fille, il dit « À quoi tu sers ?» Et là, la fille, devant toutes les grandes instances du parti marseillais, lui font « À te vider les couilles et à te servir de femme de paille pour tes coups foireux. » Et genre, qui va dire « À te vider les couilles, virgule ?» Et à servir de femme de paille. Genre, c'est pas des dialogues que disent les gens normaux.
Non.
Et du coup, ça devient délectable. Et ouais, c'est vraiment un plaisir nanardeux. Et c'est ça qui a réussi Netflix. Et on peut au moins leur remercier pour ça. C'est que c'était pas chiant à regarder. C'était nul.
Non, c'est
et
ça,
c'était
c'est
cool.
Pas chiant à regarder,
c'était
en fait.
C'était presque devenu cool. C'est presque un devenu cool.
Marseille, c'est dispo sur Netflix en intégralité, on l'a dit. Allez-y, hein, allez-y, histoire de vous faire votre propre avis. Comme toujours, pour terminer cette courte incartade marseillaise, on prend quelques minutes pour les recommandations d'usage, un conseil, un coup de cœur chacun, en commençant par toi, Charline.
Un conseil Netflix, par exemple.
Si on veut.
Bah ouais, mais alors du coup, je vais faire une redite avec mon camarade Alexandre ici présent. Grave. Regardez Master of None, qui est probablement une des meilleures séries, à mon sens, une des meilleures séries Netflix ever, Japon. Quoi. La plus tendre, la plus drôle, la plus aboutie.
La plus hipster aussi, quand même.
Non, je suis pas complètement d'accord.
Ah, si, je suis désolé.
Parce que t'aimes pas faire tes pattes toi-même, c'est tout.
Ouais, c'est pour ça, ouais. Sans doute. Alexandre.
Moi, je vais faire une redite aussi, à moins que. Non, je crois que c'est pas ma bête, une redite. Je vais conseiller de regarder Flaked sur Netflix. Ouais. Avec Will Arnett, une série qui n'a pas été forcément hyper bien accueillie.
On avait consacré un extra ball avec Stéphane.
Une série hipster aussi. Non, je déconne.
Une série qui se passe à Venice Beach avec Will Arnett, donc d'Arrested Development, qui joue aussi dans une autre série Netflix, autre qu'Arrested Development, qui est devenue une série Netflix, mais il fait la voix de BoJack Horseman. C'est vraiment une série qui, au départ, ne paye pas de mine, mais qui après, comme d'habitude, le drama s'insère dans la comédie, des petits retournements de situation, des personnages assez attachants. La série s'est faite un peu tacler pour le rapport de son protagoniste principal avec les femmes, etc. Puis en plus, bon, il a le malheur d'être blanc, hétérosexuel, américain et homme, donc forcément c'est pas très diversifié, mais au-delà de ça, ça vaut quand même vraiment le coup, j'ai pas l'impression que la saison 2 a été validée pour l'instant, mais je l'espère fortement.
Je pense que ça y arrivera. Daniel.
Moi, écoute, c'est une spéciale dédicace parce que, au T-Rex du cinéma français, puisqu'il survit à tous les nanars, à toutes les merdes, à toutes les daubes, et même à des films cultes, Gérard Depardieu, qui arrive à être quand même génial dans toutes les scènes où il est, quand il s'enfile de la coco, il faut le voir parce qu'il s'enfile de la coco, mais comme on dirait un Aronofsky à ce moment-là, quoi. Donc moi je l'ai adoré dans Les Invincibles où il était un entraîneur de pétanque professionnel.
Le film d'Atman Khelif, tu veux dire?
Oui. Et c'est extraordinaire. Il est extraordinaire.
On en parle tout le temps.
C'est un de mes films cultes, c'est un de mes nanars cultes. Vraiment, j'adore ça. Et donc, pour pas être trop vieux, je vous engage à regarder la Dream Team, qui est son nanar de l'année.
Ah oui, le truc de foot là.
Le truc de foot. Et c'est un feel good movie où c'est un joueur du PSG qui se blesse. Et il vaut des millions d'euros, tu t'imagines, le joueur du PSG, c'est vraiment presque histoire authentique. Et il retourne dans sa famille quelque part en Provence, et son père, c'est Depardieu. Et c'est délicieusement nanardesque parce que le match final à la fin qui oppose les deux écoles, c'est filmé comme Olivier Tom, quoi. Et pour être sûr que ça soit l'ambiance Olivier Tom, tu sais, où il y avait tout ce stade rempli, il y a deux commentateurs et là il y a Giroud qui débarque. Ah. Il y a Giroud qui débarque.
Spoiler.
Et là il pointe son voisin pour être sûr que les gens le reconnaissent. et il fait avec sa voix. Et lui, c'est Christian Jean-Pierre. Et genre,
un film. Pas qui... le droit aux accents normalement.
Non, c'est vrai.
Ah, mais non, je fais Guirou. Et là, un film qui te name drop Christian Jean-Pierre dans un film de Depardieu. Bah écoutez, voilà, c'est ça. C'est ça le cinéma.
C'est magnifique, c'est beau. C'est beau le 7ème art. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules à la technique. Et merci au Tank pour l'accueil. Prochain au ciné version longue, on parlera de Krampus, très chouette film d'horreur à découvrir. D'ici là, comme toujours, vous savez où nous trouver, nosciné.com, pour écouter toutes nos précédentes émissions et sur les réseaux sociaux de votre choix pour nous laisser des petits messages. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. On ne répond pas toujours, mais on lit tous, c'est promis. On rappelle que Nos Ciné, c'est un podcast du réseau Binge Audio, à retrouver aussi sur binge.audio. Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite.
Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizi. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Herbert Léonard et à Gucci Mane. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.